18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Salut à tous, Bilal il sera là lundi, les amis. Aujourd'hui c'est Alex Seban aux manettes, Time Sport, l'émission au quotidien sur Beurre FM qui vous parle de tous les sports, évidemment avec le ras-le-bol du jour aujourd'hui. Est-ce qu'on est trop sévère avec les entraîneurs? On va en parler avec nos invités. Le Rolex Paris Masters, c'est du tennis. Roger Federer est là. Restera-t-il encore jusqu'à demain, jusqu'à la finale de dimanche? On verra. On en parle déjà. Il est en quart de finale, le Suisse, qui fait un comeback en France, tout simplement, et à Paris plus précisément. L'incroyable mais vrai, ce sera le top 14, la 9e journée. Le Stade français à la conquête du titre, les amis. Et puis après la pause, notre deuxième page de pause, on parlera de la CAN 2010, la bombe atomique presque en Algérie, les déclarations de notre ami Saadan sur l'Algérie qui aurait été donnée perdante avant même le début du coup d'envoi du match face à l'Égypte en demi-finale. C'était la CAN 2010, on en a parlé, on va en reparler, puisque Hassan Chahata, l'ancien entraîneur même de l'Algérie, de l'Égypte pardon, eh bien il a contredit son ancien homologue. Et puis le mode pressing en fin d'émission, ce sera l'AS Monaco. Mais pour l'instant, go Time Sport.
Time Sport
aujourd'hui avec quatre super chroniqueurs, évidemment. Nassim Bourras, ça fait un moment que je ne l'avais pas vu. Je suis très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Nassim, journaliste, évidemment. Et puis spécialiste au demeurant de la Bundesliga, du football allemand. Comment tu vas?
Je vais très bien, merci à toi, bonsoir à tous. Ça fait très plaisir de te revoir et merci. Ça fait plaisir de revenir dans cette émission.
Eh ben, c'est avec grand plaisir que tu es là avec nous aujourd'hui, évidemment. Yad Kaski, journaliste, comment ça va?
Ça va Alex, et toi?
Très bien, écoute, très bien, belle journée. On va parler de tout plein de sports aujourd'hui, de tennis, ça me fait particulièrement plaisir, je ne le cache pas. Sur ma droite, 92 kilos à la pesée. Non, j'exagère.
Il n'y avait pas de combat prévu normalement.
Claude Tollé, journaliste, chroniqueur, prof d'éco-gestion, entraîneur et gentleman. Comment il va?
Ça va très bien.
Ouais.
Alex,
bon, c'est
monde.
Cool. Ravi d'être là.
Toujours.
La banane, super.
Toujours.
Et c'est sa première. Valérie Capla, ingénieur développeur en développement ou développeur, comment on dit?
DevOps, exactement.
DevOps. C'est de l'informatique, en tout cas.
Exactement.
Les ordinateurs, tout ça, et chroniqueur. Time Sport, dorénavant, salut Val, comment ça va?
Bah écoutez, merci beaucoup de m'accueillir et ça va très bien.
Allez, on se dit tu.
Ok, ça marche.
Allez, on se dit tu, c'est parti. Maintenant, pour le ras-le-bol du jour.
Time Sport, le ras-le-bol.
Chers amis, est-ce qu'on est trop sévère avec les entraîneurs? Pourquoi on se pose la question aujourd'hui dans Time Sport avec toute l'équipe qui nous a aidé à préparer le conducteur du jour, les thèmes de l'émission du jour? Parce qu'on a vu ces derniers temps des entraîneurs être évincés au bout de quelques semaines, au bout de quelques matchs. On se souvient de Gustavo Poyet à Bordeaux, il a fait quelques mois. On a vu là récemment Julen Lopetegui avec le Real Madrid. Ça fait quoi? Ça fait deux mois et demi qu'il était là depuis depuis la rentrée au mois d'août, on va dire. Et, enfin, même c'est sûr.
Deuxième entraîneur
et puis
rapidement viré. Ouais.
Exactement.
De l'histoire du Real.
Et puis d'ailleurs dans l'histoire du Real, si mes souvenirs sont bons, il y a notre ami José Antonio Camacho qui avait été viré aussi rapidement il y a une dizaine d'années, en 98 si je ne m'abuse. Et puis bien sûr on en a parlé il y a pas longtemps, on a vu le retour de Vahid Halilhodžić à Nantes. Pourquoi? Parce que l'entraîneur Miguel Cardozo a été débarqué au bout de quelques semaines, alors que le président nantais, notre ami dont le nom échappe, Valdemar Kitas, je pensais au prénom du fils, non, Valdemar Kitas, c'est le taulier, après tout, avait décidé finalement de saquer, comme on dit aux États-Unis, son entraîneur. Nassim, commences-tu? Est-ce qu'on est déjà trop sévère? On leur laisse pas le temps de travailler à nos amis entraîneurs?
En partie oui, en partie non. Pour certains, on leur donne les clés. Parfois, ça marche pas. Dans ta liste, t'as oublié de parler d'Ancelotti.
Oui, il y en a d'autres, évidemment. Évidemment.
Je connais bien mieux parce qu'il avait entraîné le Bayern.
Et ben, c'est l'occasion.
Et lui, pour le coup, avait eu le temps. Avait eu le temps de faire. Il a eu un an et quelques pour faire ce qu'il avait à faire. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il ne faut pas oublier que l'entraîneur est en première ligne. C'est lui qui doit tout gérer. C'est lui qui amène les joueurs. Dans certains cas, non, parce qu'il y a un directeur sportif. Mais dans la plupart des cas, c'est lui qui s'occupe des transferts, qui s'occupe de l'entraînement et qui s'occupe d'aligner les 11 joueurs sur le terrain. C'est donc lui qui est le principal responsable en cas d'échec. Néanmoins, parfois, il y a des moments, il y a des clubs où l'entraîneur n'a pas la main sur tout. Et là, ça devient un problème s'il est saqué. Je prends le cas, par exemple, de Lopetegui, même si ce qui lui arrive, c'est le karma et qu'il le mérite parce qu'on on part pas d'une sélection deux jours avant le début d'un mondial. Le Real Madrid et les dirigeants du club auraient dû comprendre que, voilà, le Real Madrid sort d'une grande ère fantastique, merveilleuse, où ils ont remporté trois Ligues des Champions d'affilée, et que là, Cristiano Ronaldo part, et qu'un joueur qui tient autant un effectif, un 11 de départ, ça se remplace pas du jour au lendemain. Ça se remplace pas du jour au lendemain. Il y a tout un tas de changements à faire, et ces changements ne prennent pas 3 mois, ne prennent pas 6 mois, ne prennent pas 1 an. Parfois, ça peut prendre 2, 3, voire 5 ans. C'est une ère qui se termine. Et avant de retrouver peut-être le Real à remporter une Ligue des Champions, il faudra peut-être attendre, pourquoi pas, une dizaine d'années. Et il fallait surtout pas attendre que Lopetegui ait des résultats aussi fantastiques que Zidane au bout de 3 mois. Donc voilà, il y a des moments où l'entraîneur doit partir parce que c'est lui qui est en première ligne. Et il y en a d'autres où, voilà, il n'a pas toutes les clés en main et que le faire partir, c'est vraiment une solution de facilité.
Iyad Kaski, c'est une décision réfléchie quand on décide d'engager un entraîneur. Et là, se contredire aussi vite, il n'y a pas comme une incohérence?
Pour moi, c'est clairement une incohérence. C'est complètement inconcevable de virer un entraîneur même au bout de 6 mois. Pour moi, ça doit être au minimum 1 an. Et même si les résultats sont peu satisfaisants, là, on peut se poser la question. Mais pour moi, le cycle parfait d'un entraîneur, c'est minimum 2 ans pour qu'il puisse mettre en place ce qu'il avait prévu de mettre en place. Après, pour en revenir à Ancelotti, Ancelotti a eu le temps, mais pas forcément non plus, étant donné que déjà le choix de prendre un entraîneur étranger qui ne correspondait pas forcément à la philosophie de jeu du Bayern Munich. On a bien vu que le Bayern Munich a ensuite fait revenir, entre guillemets, un ancien de la maison, avec Niko Kovac. Bon, ça marche ou ça marche pas, mais ce que je voulais dire, c'est que surtout le Bayern Munich avait peut-être pas forcément pris la bonne décision en prenant Carlo Ancelotti et devait lui laisser les clés du Bayern, étant donné la difficulté de s'imposer dans ce club, autant d'un point de vue politique. On sait que Rummenigge est beaucoup présent et que l'entraîneur n'est pas le seul à devoir gérer et qu'il doit aussi composer avec les humeurs des autres dirigeants. Après, pour le fait de virer l'entraîneur si vite, moi, bien sûr, je trouve que c'est très cruel, étant donné que l'entraîneur reste le fusible le plus facile à faire sauter dans un club, parce que lorsqu'un club va mal, ça peut dépendre du mercato et donc du recrutement peu intéressant, et aussi de la forme des joueurs et du manque de niveau de certains joueurs. Donc l'entraîneur, enfin, je veux dire, c'est plus facile de virer un entraîneur au bout de 2 mois et demi
que de virer
les 11 joueurs, ou que tout simplement de se remettre en question par rapport à son mercato ou par rapport à une fin de cycle, comme Nassim l'a dit pour le Real.
Valérie Capla, l'entraîneur premier fusible est logique, nous dit quelque part Iyad. On peut pas non plus changer tout l'effectif, évidemment, donc c'est forcément l'entraîneur qui doit sauter. Mais pour en revenir à la question du jour, est-ce que finalement on n'attend pas, est-ce qu'on laisse assez de temps aux entraîneurs aujourd'hui pour réussir?
Écoute, y a un dicton qui dit que la patience est la mère de toutes les vertus. Et ben, les entraîneurs, ils n'en ont pas. Parce que quand on est en entraîneur, quand on arrive dans un grand club, on a une pression de résultats rapides. Et quand les résultats ne sont pas présents, et évidemment, comme il disait Nassim, c'est l'entraîneur qui est le plus apte à sauter tout de suite. Parce que, comparé à des joueurs qui ont une valeur marchande très importante, qu'on peut revendre pour gagner de l'argent pour certains clubs au niveau des transferts, l'entraîneur, lui, il en a aucune, il a aucune valeur marchande. Donc, quand il n'y a pas de résultat, que le club ne va pas bien, que le beau jeu en plus n'est pas là, c'est plus facile pour un président de virer un entraîneur pour faire soi-disant l'électrochoc au niveau des joueurs, pour essayer de remettre un peu le club au niveau des résultats et prendre un entraîneur par la suite. Mais virer un entraîneur en cours d'exercice, c'est difficile, parce qu'après que l'entraîneur soit viré, il faut retrouver un autre qui puisse déjà aller dans une aventure où le bateau tangue et puisse se redresser la barre. Donc, c'est pas facile pour les entraîneurs.
Claude Tollé, toi, tu es entraîneur, tu es l'homme le plus apte à nous parler finalement de cette situation, comme pourrait le dire Valérie. On a vu Jardim, là, récemment, donc Monaco, qui est quand même un grand club français. Jardim avec une expérience certaine, puisqu'il a même mené l'AS Monaco au titre. Et là, la mayonnaise prend pas vraiment cette année, et bon, finalement, on le laisse pas aller au bout. On le met dehors. Est-ce que toi, tu Bon, déjà, ton sentiment en tant qu'entraîneur, parce que c'est aussi ta profession d'être entraîneur. Ouais, comment tu ressens les choses, même si toi, t'es dans un, évidemment, oui. un niveau pas encore oui, professionnel, sûr. Comme la Ligue 1 ou autre.
C'est toujours délicat, parce que l'entraîneur, quand il arrive, il est avec ses idées, il a envie forcément que ça réussisse, il a envie que son équipe joue bien au ballon, au football, il a envie de remplir les objectifs, de rendre heureux le public qui vient au stade. Maintenant, tu as tellement de paramètres qui rentrent en cours, ils étaient en train de le signaler les autres. Ça peut être politique au niveau des clubs, ça peut être le directeur sportif, ça peut être des soucis internes, ça peut être un joueur qui des joueurs qui ne sont pas forcément en adéquation avec le coach. Et malheureusement, comme ça a été dit, tu mets pas en place un projet même de jeu au bout de quelques semaines, ça n'existe pas. Maintenant, quand t'es coach d'un club, malheureusement, quand tu arrives, tu sais déjà que t'es sur un siège éjectable et que les résultats doivent arriver tout de suite. Quand tu joues bien, on va peut-être et que t'as pas les résultats, on va quand même te reprocher de pas avoir les résultats. Si t'es résultat mais que tu joues pas bien, enfin. C'est difficile. C'est certainement l'un des métiers les plus passionnants, mais les plus durs aussi. C'est vrai que on a aucune pitié avec ça. Et il y a un vrai décalage entre les directions et le sportif. Mais il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de paramètres autour qui fait que malheureusement, voilà quoi. C'est compliqué.
Tu voulais compléter.
Ouais, je voulais revenir sur un argument qui avait été lancé par Valérie. Il y a un problème d'ailleurs qu'on oublie très souvent, c'est le problème économique. Et quand je parle de problème économique, je ne parle pas de la valeur des joueurs, la valeur des entraîneurs, mais je parle de la valeur du club même et des employés qu'il y a autour. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un des problèmes, celui-ci s'applique plus aux gros clubs, c'est la recherche de résultats. Par exemple, un club comme le Bayern, le Real voudra des résultats immédiats,
Exactement.
Des résultats de haut niveau. Et par contre, on oublie de parler des petits clubs, style Nantes ou je ne vais pas parler de Monaco, mais...
Non, mais Nantes, ce n'est pas un petit club, c'est un club historique, quand même.
Oui, mais c'est un petit club.
Des clubs comme Nantes ou même Monaco, je vais expliquer ma façon de penser, s'ils se retrouvent dans la zone de relégation et qu'ils finissent par être relégués en ayant donné trop de temps à l'entraîneur, ce temps-là peut être préjudiciable pour le club parce qu'il peut détruire le club à terme. Je parle de Monaco parce que le président peut très bien quitter le club s'il voit que son club descend en Ligue 2. Ça peut être le cas pour d'autres clubs. Par exemple, l'Uznac, par exemple, en descendant de division, a tout simplement fait cessation de paiement. Donc, ça montre bien qu'il y a certains clubs qui ne sont pas en mesure de donner ce temps aux entraîneurs parce que ça dépend tout simplement de la survie du club, en fait.
Messieurs, j'ai une petite question à vous poser, toujours dans le thème, évidemment, de l'entraîneur. Ce soir, il y a PSG Lille, le premier contre le deuxième. Est-ce que notre ami Thomas Tuchel n'est pas déjà sur un siège éjectable tout en sachant ce qui s'est passé il y a 15 jours, un petit peu moins de 15 jours, face à Naples et ce qui pourrait évidemment se passer à Naples dans quelques jours, Riyad?
J'espère que les dirigeants du PSG, comme on le disait tout à l'heure, lui laisseront le temps, bien évidemment. Après, je pense que ses premiers pas sont très durs à juger, étant donné qu'il a dû bricoler depuis le début de la saison. Je pense que les joueurs du PSG ont plus vu leur sélection que Tuchel ou pas loin depuis le début de la saison. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pas aller trop vite. Mais Tuchel est forcément, d'une certaine manière, sur un siège éjectable, vu le prestige du club, vu les moyens et les attentes demandées. Mais c'est sûr qu'en cas de contre-performance et de qualification du PSG en Ligue Europa, il y aura des questions à se poser.
Tu fais la moue, Valérie, t'es pas tout à fait d'accord.
On sait très bien que le PSG, au niveau de la Ligue 1, c'est un rouleau compresseur, ils vont être premiers sans problème, il n'y a pas de souci. On juge le PSG sur la Ligue des Champions. Et pour l'instant, le début de la campagne de Paris en Ligue des Champions est vraiment très médiocre. Les résultats, ils se sont sauvés grâce à des miracles à chaque fois. Le fond de jeu, il n'y en a pas.
Est-ce que c'est la faute de Tuchel?
Si, c'est la faute de Tuchel. Depuis qu'il est arrivé, c'est l'entraîneur qui a eu le moins bon parcours en Ligue des Champions depuis que le Qatar est arrivé. Bien sûr, c'est de sa faute.
Entièrement de sa faute.
C'est pas entièrement de sa faute. C'est jamais entièrement de la faute d'une personne. Mais bon, moi, il a voulu faire copain avec les joueurs au début, un peu les
calmer. Tout le monde a trouvé
etc.
ça formidable.
Mais tu peux pas, arriver dans un club et dire tout de suite, voilà, vous, c'est comme ça. Bah, il faut quand même une technique d'approche. Il faut pouvoir se mettre le vestiaire dans la poche.
Claude Mali.
Le grand club, c'est politique.
Ah, mais si le PSG ne passe pas, il saute, hein.
Exactement.
Clairement. Donc il est sur un siège éjectable aussi.
Je suis le premier à l'avoir dit tout à l'heure, mais malheureusement, s'il passe pas le premier tour, il saute.
Nassim, vas-y, on va conclure avec toi. Nassim,
ouais. Justement, moi, en fait, j'espère le contraire. En fait, j'espère qu'il ne passe pas, et pas parce que je suis pas supporter du PSG, mais
non, je peux pas entendre ça.
Mais je vais aller au bout de ma pensée. En fait, ça serait pas mal que le PSG recommence à zéro son projet. Je m'explique. En prenant le PSG, les Qataris avaient pour ambition de remporter la Ligue des Champions. Mais c'est impossible de remporter la Ligue des Champions directement. Ce qu'ils auraient dû faire, à mon sens, c'est d'abord reporter la Ligue Europa en ayant des joueurs de niveau Ligue Europa plus. En la reportant, en essayant de faire naître un niveau européen à ce club qui est le PSG, en lui faisant remporter des Coupes d'Europe, et derrière, comme a pu le faire le FC Séville, essayer de monter en Ligue des Champions, et cette fois-ci avec la puissance financière du Qatar, essayer de remporter la Ligue des Champions avec un historique européen.
Mais c'est pas possible.
C'est maintenant l'occasion de le faire.
Paris, pour au niveau du prestige, c'est impossible.
Mais là, c'est l'occasion. Tard, non, ce qu'on a beaucoup dit sur le PSG, c'est qu'ils ont pas d'histoire. Ils ont pas d'histoire européenne. Ils ont rien. Ouais. C'est l'occasion d'en créer une.
Allez, messieurs, le débat est clos. On va passer à la suite dans quelques instants. On fait petite respiration et puis on revient dans Time Sport. Allez, à tout de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Allez, on revient dans le studio de la Porte de Bercy, les amis, ici à Paris. Ça fait rire Florian Bizet, notre réalisateur.
Bah ouais.
J'adore ce Florian Bizet. Mais oui, évidemment, sans toi, on n'est rien, cher ami.
Merci.
On est reparti pour Time Sport, évidemment. Mais avant de passer au thème qui me fait encore plus plaisir aujourd'hui, à savoir notre ami Roger Federer, on va poser une petite question à Ayat Khaski, ou Khaski, je sais plus d'ailleurs comment on dit, tu m'as dit,
comme
peu importe, hein, allez Khaski, on la prononce bien.
On est bien.
Les sales tips, c'est ton affaire ça, raconte-nous un petit peu ce que c'est.
C'est notre affaire.
Oui, votre affaire.
Avec Bassim, Majdi et Nico, et du coup on est une équipe de passionnés qui débriefont les matchs, on fait des podcasts du coup chaque semaine, que ce soit pour les championnats européens ou pour la Ligue 1. Mais aussi pour bien sûr la Ligue des Champions. Et puis Bassim et Nico s'occupent également du tennis. Quand on peut, on fait du basket. Donc voilà, on essaie de s'attaquer un petit peu à tous les sports et d'être le plus objectif possible et passionné comme toujours.
Et tant qu'on est dans l'autopromo, n'oubliez pas, les amis, vous aimez la Bundesliga, vous avez vous avez envie d'en parler, vous allez sur Twitter et vous en parlez avec Nassim Bourras, un des plus grands experts Bundesliga football allemand en France.
Ça sent pas trop que je rougis là en fait.
Avis.
Heureusement on est en radio. Hein.
Aux amateurs, à bon entendeur. Allez, c'est parti, c'est la victoire.
Time Sport, la victoire.
Et ben voilà, il est revenu, l'ami Roger Federer. On l'avait pas vu depuis 3 ans à Paris. Il devait jouer mercredi. Finalement, son adversaire, Milos Raonic, a décidé de déclarer forfait. Il était blessé, le pauvre. Et puis hier, Roger a enflammé Bercy comme rarement face à notre ami Fabio Fognini, l'Italien. Il s'est imposé, l'ami suisse, en 2 petits sets. C'est pourquoi il jouera tout à l'heure face à Kei Nishikori à 21h30. Un peu avant dans la journée, rappelons quand même les résultats. Karen Khachanov a battu Alexander Zverev en 2-7 secs, hein, 6-1, 6-2. Dominic Thiem, l'Autrichien, vient de s'imposer face au tenant du titre, hein, d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse, l'Américain Jack Sock. 4-6, 6-4, 6-4. À 19h30, l'immense Novak Djokovic, bien sûr, s'attaquera au non moins immense, mais surtout en taille, Marin Cilic, le Croate. Et puis, voilà, Roger, tout à l'heure, à 21h30, face à Kei Nishikori. Puis, j'oublie pas, avant de démarrer notre débat, 01-53-48-3000. Si vous avez envie de réagir à l'antenne sur un des thèmes abordés, eh bien, n'hésitez pas à vous nous passer un petit coup de fil. Alors, Claude Tollet, Roger Federer qui revient à Paris, qui est ovationné d'ailleurs.
Ouais.
Ça te fait plaisir de le revoir, ou quelque part il y a aussi un petit peu d'amertume face à ses désistements ces dernières années.
Non, c'est
et notamment sur dur à Bercy.
C'est la classe. Non, ça fait extrêmement plaisir de le revoir. Et puis surtout, on sait que voilà, quand tu vois la carrière de ce joueur, on sait qu'il est sur la fin. Il a quand même 37 ans. Et c'est vrai que quelle atmosphère en tout cas, c'est vrai que ça a même pris limite le dessus sur sur la partie qui a pas été non plus extraordinaire, mais c'est vrai que voilà le fil rouge vraiment c'était son retour à Paris, et puis voilà il a ressenti, il a remercié à la fin de sa rencontre, mais non, c'est clairement du bonheur d'avoir des légendes encore sur le court.
Valérie, tu l'as suivi toi le retour de Roger, selon toi il peut aller chercher le tournoi cette année?
Déjà c'est bien qu'il soit revenu à Paris parce que il boude Paris depuis quelques années, donc c'est vrai que le public français est très fan de Federer, donc ça fait plaisir de le revoir. Après aller chercher le titre, ça va être compliqué. Hein. Même lui l'a dit que il voulait vraiment plutôt se concentrer sur le Master. Il est venu à Paris, je pense, parce qu'il a besoin de temps de jeu pour pouvoir bien, on va dire, se dérouiller pour le Master. Mais je pense pas qu'il puisse le gagner. Déjà, il va falloir qu'il passe Nishikori, même si au niveau statistique, il a gagné, je crois, ils se sont rencontrés 8 fois, je crois, il a gagné 6 fois.
9 fois, pour être précis, il a gagné 7 fois face à Kei Nishikori.
Donc il a un avantage psychologique, etc. Mais bon, Nishikori est en forme. S'il veut se qualifier pour le Master, il faut absolument qu'il fasse un bon Paris-Bercy. Donc... ça va pas être si facile pour Federer, et puis après en demi-finale tomber sur l'ogre 2018 Djokovic, ça va être très 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 compliqué. Donc ça va être compliqué pour lui. J'espère qu'il va aller le plus loin possible parce que je pense que ses jours sont comptés. Je pense que l'année prochaine on va le voir, et après je pense qu'il prendra sa retraite. D'ailleurs il a peut-être dit qu'il allait faire Roland Garros. Ça ressemble à une tournée d'adieu, donc tant qu'on peut le voir, profitons-en.
Yad, alors si j'ai bien compris, chez les sales types, c'est Nicolas et Bassim, les pros du tennis. Mais bon, t'as quand même un petit avis sur le retour de Roger Federer, évidemment. Toi, comment tu appréhendes voilà ce retour à la compétition à Paris de notre ami suisse?
Bah après avoir vu du coup le match de sa qualification et puis après l'avoir entendu en interview après le match, j'ai senti une certaine décontraction. J'ai senti qu'il n'était pas forcément, enfin il l'a carrément dit, il a dit qu'il n'était pas forcément là pour gagner. Bon, ça. Après, on la prend comme on veut, cette phrase-là, mais je pense qu'il s'est enlevé une certaine pression. Et puis, l'histoire de Federer avec Paris, elle est assez paradoxale, étant donné que, bah, comme on l'a dit, Paris l'adore, mais qu'il a toujours plus ou moins boycotté ce tournoi qui se trouve entre, du coup, le tournoi chez lui, généralement à Bâle, et Londres. Et il a clairement dit que Londres était son objectif. Donc, je pense que il fera du mieux qu'il peut, mais il a clairement dit, même avant, du coup, de disputer son quart de finale, que l'objectif serait Londres.
Bassim, un petit mot sur Roger Federer quand même, la légende.
Oui, mais moi je suis content.
En plus, il parle allemand, Roger, il est plutôt suisse-allemand.
Non, mais ça, c'est pas un problème.
Est-ce que Nassim parle allemand déjà?
Bon, on verra ça. C'est pas le débat.
Rendez-vous sur Twitter.
Ne réponds pas à cette question, Nassim.
Non, mais en fait, ça me pose un petit problème. Je suis content qu'il revienne sur Paris, mais à 37 ans, je me pose la question, il n'y a toujours pas quelqu'un qui est capable de redresser, de donner un coup de frais au tennis mondial, parce que c'est quasiment les mêmes qu'on a dans le top 10, même dans le top 5. Ouais, Djokovic, Nadal, Federer, même si Nadal fait l'impasse sur le Master de Paris encore une fois. Ça pose
il était blessé quand même, Nadal.
Oui, mais bon,
il est venu, il s'est entraîné.
Ça fait 10 ans qu'il fait rien au Masters de Paris. Il est plus là pour l'autre tournoi de Paris qui est Roland Garros.
Évidemment.
Mais
il le fait bien.
Il le fait très bien, il n'y a pas de souci. Je ne jette pas la pierre. Le problème, c'est que je jette plutôt la pierre aux autres tennismen qui n'arrivent pas à hausser leur niveau, parce que là, on parle d'un Roger Federer qui est limite en tongs, qui est voilà, c'est fin de carrière, tournée d'adieu.
En roue libre, quoi.
Voilà, je crois qu'il y avait 2 ans, il était sorti d'une grave blessure.
Oui.
Et juste après, il gagne des tournois. Alors, je veux bien que ce soit Roger Federer, qu'il est fantastique, qu'il a un jeu technique, éblouissant. Franchement, il est magnifique à voir jouer. Mais il y a d'énormes joueurs qui sont jeunes, qui doivent essayer de prendre cette première place. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à passer c'est un peu dur comme terme, mais ces antiquités que sont Federer, Djokovic ou Nadal, il faut qu'il y ait une nouvelle génération, parce que le tennis ne va pas s'en ressortir grandi si c'est toujours les mêmes qui gagnent. Surtout que ces jeunes vont devoir prendre à terme le leadership du tennis mondial, et j'ai l'impression que c'est toujours pas le cas. Bon, après, on va voir. Thiem est encore en place, Khachanov aussi, pour remporter ce Master. On verra bien si il y aura une victoire à la clé pour eux.
Valérie, Nassim nous dit la next gen doit prendre le pouvoir, mais la papy gen, comme on dit, la papy generation, est toujours en place et il gagne. Et quand on voit par exemple un Alexander Zverev qui prend 1 et 2 face à quelqu'un de sa génération quand même, puisqu'ils ont 21 et 22, Khachanov et lui. Bon, on sent aussi qu'ils sont peut-être pas prêts de faire sauter les vieux anciens.
Bah moi je suis d'accord avec Nassim, hein. Franchement, au niveau de la relève. Il y a des joueurs qui émergent, des très jeunes comme Zverev. Il y a
Tim,
oui, bon, qui est un peu plus âgé.
Il
est plus âgé. Il y a l'Australien, le fantasque, comment il s'appelle?
Kyrgios.
Ce sont des bons joueurs, mais ils sont trop irréguliers. Ils sont absolument trop irréguliers. Ils peuvent faire des grands chelems ou des master 1000 énormes. Et puis après, ils font n'importe quoi. C'est compliqué. Après, il faut pas non plus banaliser l'ère de Federer, Djokovic, Nadal, Murray aussi, Del Potro, qui s'il avait pas eu toutes ses blessures, je pense aurait gagné plus de grands chelems. Ce sont des monstres. Ce sont vraiment des monstres.
Une bulle en fait dans l'histoire du tennis. Ces trois-là, ils constituent quelque chose d'extraordinaire.
On n'avait jamais eu dans l'histoire du tennis autant de joueurs au même niveau extraordinaire en même temps.
Pendant aussi longtemps,
voilà.
37 ans quand même pour Federer.
C'est exactement. Joueurs sur autant de trophées aussi. Enfin,
exactement. Ouais. Donc, voilà.
C'est exceptionnel quand même d'avoir des gars.
Claude, vas-y,
oui, mais à la limite, s'il n'y en aurait qu'un.
Ça bah ouais, là, il y en a trois.
Mais
est-ce que ça dépend de la faiblesse des autres ou alors est-ce que c'est parce que ce sont des
voilà,
joueurs
qu'on n'a jamais alors, vu? Alors, tu fais bien, je vais poser la question à Claude qui est entraîneur. Toi, tu entraînes des jeunes aussi quand même. Tu sens dans les nouvelles générations, puisqu'on dirait quand même un écart d'âge avec toi, tu as une trentaine d'années, tu sens que les jeunes de 20 ans, il y a un problème psychologique comme ça dans le sport, on a du mal à se concentrer, on n'est pas fixé sur les objectifs.
Ouais, si on parle de ça, moi je pense clairement que, quelles que soient les disciplines, tu as le sentiment aujourd'hui que les générations veulent gagner des trophées, mais sans travailler en fait. Mmh.
Sans s'arracher, en fait.
Sans remise en
cause. Petit frère veut grandir trop vite, quoi.
C'est ça, exactement. Sans donner les moyens, voilà, sans se faire mal, t'es obligé de te faire mal, t'es obligé d'apprendre. Et lorsque tu lui dis, OK, mais il va falloir passer par là,
il va pas se faire du mal, en fait.
C'est intéressant ce que dit Claude.
Rapidement, comme ça, on passe à la suite.
En fait, parce qu'il faut pas oublier que cette génération, peu importe les sports, c'est la première génération télé-réalité, réseaux sociaux. Ça montre bien qu'il y a toute une nouvelle donnée à prendre en compte pour ces jeunes joueurs quand on va les former, quand on va les faire étudier, même dans l'enseignement. C'est comme l'a dit Claude, c'est des personnes qui veulent grandir trop vite. Bah, d'ailleurs, c'est le problème de la télé-réalité, c'est d'essayer de prendre des raccourcis pour être reconnu rapidement. On a l'impression de voir ça avec certains joueurs et pourtant, on voit bien que certains jeunes joueurs, s'ils sont bien encadrés, bien entourés, ça peut donner des Mbappé dans toutes les disciplines.
Écoute, ce sera le mot de la fin. Toujours une petite pensée pour Kylian Mbappé. C'est notre nouveau Zizou, notre nouveau
c'est
Pelé.
Pas sujet, c'est pas le sujet, mais il faut être
mais
patient.
Voilà, mais il faut être patient quand même. Exactement. Et même avec Kylian Mbappé.
Il a su se donner la patience pour le coup.
Même Mbappé, faut être
les patient. Amis, on va passer à un rugby qui se joue, à un sport qui se joue effectivement aussi avec les mains. On va parler rugby. Allez, c'est parti.
Time Sport.
L'incroyable mais vrai. Chers amis, top 14, 9e journée, le Stade français à la reconquête du titre. Qu'est-ce que vous en pensez en ce début de saison? Voilà, on en est à la 9e journée. Le Stade français est-il finalement l'un des favoris? Il va tenter dans les prochaines heures de remporter une troisième victoire consécutive. Ce sera sur le terrain de Lyon, qui est en l'occurrence bien parti. Qu'est-ce qui veut se lancer en premier sur le rugby? Je vous regarde tous, les yeux dans les yeux. Vas-y, Valérie.
Vous battez pas. Hein.
Bah écoute, c'est le retour du Stade français.
Exactement.
Donc déjà, c'est déjà pas mal. Bon, même s'ils avaient gagné le bouclier de Brennus en 2015, là, on sent vraiment un renouveau du Stade français. Et en tant que francilien, ça fait plaisir. Après, il faut voir comment ça va se passer dans la durée. Là, ils sont deuxièmes. On voit que quand même l'ASM, donc Clermont, est, je pense, un peu supérieur. En plus, il va avoir la tournée de novembre avec beaucoup d'internationaux qui vont partir en tournée, qui sont dans l'équipe du Stade français, dont Gaël Ficou, qui est vraiment le joueur numéro 1 en ce moment du Stade français. Donc, je pense que s'ils arrivent à bien passer cette tournée des internationaux en novembre, ils peuvent être bien positionnés pour concurrencer l'ASM. Après, je pense que l'ASM quand même sera devant parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont encore des très bons joueurs, alors que le Stade français, c'est vraiment la prime à la jeunesse. C'est bien, mais peut-être que sur le long terme, ils vont un peu s'écrouler.
La particularité du championnat top 14 de rugby, c'est qu'il y a des play-offs.
Le but, comment finalement, NBA d'ailleurs.
Comment NBA d'ailleurs, on aurait pu en parler aujourd'hui. On en parlera probablement la semaine prochaine. Voilà, l'intérêt, c'est de bien figurer en saison régulière pour ensuite aller chercher le titre, mais évidemment, en play-off. Donc le Stade français aujourd'hui se prépare plus dans une mentalité voilà d'aller chercher la première place en saison régulière ou finalement il a déjà dans l'idée de d'aller chercher le titre.
En fait, quand on est dans un format de saison régulière plus de play-off, c'est vraiment deux saisons distinctes. Il y a vraiment donc la saison régulière où on essaye de se placer pour être le plus haut, pour avoir les adversaires le plus faible, pour pouvoir aller en play-off
sereinement.
Pas sereinement, parce que les play-offs, même si on y va
toujours
sereinement,
dur, oui.
C'est toujours dur. Mais c'est vrai que c'est plus confortable et on peut plus peut-être, on peut moins tirer sur la corde dès les premiers matchs et aller donc plus loin.
Nassim sera la dernière intervention.
Oui, c'est ça en fait, parce que bon, le Stade français, s'ils sont premiers ou deuxième, c'est pas trop c'est un peu kiff bourricot en fait pour eux.
Exactement.
Parce que sachant que la première et la deuxième place, ça va pour les demi-finales. Et comme tu le disais justement, s'ils arrivent troisième, quatrième, bah ils feraient un tour de plus en play-off, ce qui est jamais facile. Si on peut s'enlever un tour de moins,
ouais. Surtout au rugby, hein.
Tant mieux, voilà, c'est toujours ça de prix. Après, en parlant de play-off, il y a un club dont il faut parler, c'est Toulon, quoi. Toulon qui, même si le Stade français a réussi à émerger un peu, Toulon est en train de couler tout doucement et eux, c'est pas les play-offs qu'ils vont viser, c'est plus la relégation.
Ce sera l'occasion d'un prochain débat, évidemment, avec vous, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices. C'est 01 53 48 3000, 01 53 48 3000 pour intervenir dans Time Sport. À dans quelques instants.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Bilal, on le retrouvera dès lundi. Les amis, aujourd'hui, c'est Alex Seban qui est aux manettes de votre émission Time Sport. 01 53 48 3000. 01 53 48 30 00, si vous préférez. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil, on en parle là tout de suite. On est sur le duel.
Time Sport. Le duel.
Le duel. Le duel, les amis. Algérie. Égypte, 2010, c'était la CAN, c'était en Angola. Et Rabah Saadane, l'ancien sélectionneur, de l'Algérie, des Fenech, a dit il y a quelques jours que le match avait été truqué. Alors, il nous a pas donné assez de détails, notre ami Rabah Saadane, puisque même Hassan Yabda, qui était là en direct l'autre jour au téléphone avec nous, lui a demandé de s'expliquer un peu plus, parce qu'il y a... Voilà, il nous dit ça, le match truqué, demi-finale, perdu 4-0. En même temps, il nous a quand même dit que l'arbitre, enfin on s'en souvient d'ailleurs, que l'arbitre avait expulsé un joueur algérien très rapidement dans la rencontre. Et du coup, ça avait quand même pas mal déstabilisé l'équipe algérienne et donc qui avait perdu et s'était incliné donc en demi-finale pour laisser les Égyptiens, qu'ils avaient pourtant battu quelques semaines auparavant à Omdurman pour la qualif à la Coupe du Monde 2010. Mais bon, voilà. Cet après-midi, en tout cas ces derniers jours, réponse du berger à la bergère, pour utiliser un bon petit poncif bien comme il faut, eh bien c'est l'ancien sélectionneur de l'Égypte de l'époque, Hassan Chahata, qui a répondu à notre ami Saadane. Il a dit c'est inacceptable et ça ne repose sur aucun fondement, eh bien ces accusations. Nassim, qu'en penses-tu, toi ? L'Égypte a triché, n'a pas triché, ouais. Qui a triché et...
Oui, bien voilà. Sûr, Ferrata n'allait pas dire l'inverse en disant oui, c'est vrai, on a bien payé le match.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est,
évidemment,
oui,
c'est nous.
Cette réponse est tellement évidente. Après, dans 80% des cas, je vous aurais dit c'est juste pour faire le buzz. Mais là, il y a trop de points qui se mettent pour la thèse du match arrangé. Je m'explique. La première, c'est tout simplement que c'est le sélectionneur du match même qui en parle. C'est pas un journaliste ou quelqu'un d'extérieur. C'est le sélectionneur du match.
Ça aurait pas eu aussi, enfin, autant d'impact si ça avait été une enquête
c'est
journalistique.
C'est quand même l'entraîneur du match qui dit comme quoi on a perdu parce que...
Il n'apporte pas de preuves.
Ah bah, ça, il le dit quand même.
Il donne des raisons, mais il n'a pas de preuves. Il donne des raisons comme quoi...
Et quel
il donne un feeling,
ça,
il donne un sentiment.
Ça, qu'il faut justement, quel intérêt il a
à ça ? Laissons finir, Nassim.
Le problème, c'est que déjà, il y a ça, et puis surtout, on est en Afrique. Voilà, connaissant le football africain, il se passe souvent des choses pas très nettes, pas très claires dans ce championnat. Donc, dans ce continent en termes footballistiques. Donc c'est un peu étonnant. Après, oui, moi j'ai du mal en fait, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'Algérie a laissé l'Égypte gagner ce match parce qu'il les avait qualifiés, parce qu'ils s'étaient déjà qualifiés quelques mois plus tôt pour la Coupe du Monde. Déjà l'intérêt de cette manœuvre, elle est ridicule. Moi, et après, pourquoi il met 8 ans pour parler derrière en fait? Pourquoi il n'aurait pas pu en parler juste
à l'époque?
Apparemment, il était en
poste. Je me suis
un
petit peu renseigné, les amis. À l'époque, au sortir du match et dans les jours qui ont suivi, personne n'a évoqué une telle situation.
Oui, mais puis même quand il a quitté le poste de sélectionneur, il aurait pu en parler. Moi, cette histoire, ça me fait penser aux femmes qui crient au viol 15 ans plus tard. Oui, voilà, tel ou tel m'a agressé. Non, si c'est passé un truc, tu en parles directement ou le plus rapidement possible.
Mais non, mais il y a jamais parlé. Il pouvait pas en parler.
Messieurs, pas tous en même temps. Vas-y, Claude, rapidement.
Viol de femmes, on n'est pas déjà à leur place. On ne sait pas ce que c'est que de se faire violer. Un match truqué.
Oui, mais
faut faire attention quand même à
la comparaison.
Je parle par rapport à la justice. Ouais.
Par rapport à la justice,
la justice ne pourra jamais régler un cas, que soit l'un ou l'autre, si on parle 15 ans plus tard. Ça ne sert à rien, c'est ridicule.
Ça dépend s'il y a rétroactivité ou pas dans la loi, mais ça c'est autre chose.
Mais là, il y a quand même un aspect sportif, économique, on sait ce que ça engendre. Mais il faut vraiment arrêter, je pense. La comparaison, là, faut tout de suite... faut mettre ça de côté. Enfin, vraiment, la comparaison avec un viol, l'aspect psychologique...
Non, mais moi, si on enlève l'aspect psychologique, l'aspect juridique, je suis désolé, il revient au même. Dans les deux cas, la solution ne pourra jamais être réglée.
Là où je rejoins, c'est pourquoi, en fait, je suis d'accord avec toi, pourquoi 8 ans après?
Non, mais parce qu'il vient de quitter son...
Voilà. Non, il a pas quitté, il s'est fait virer, déjà.
Il a quitté, je crois, son
poste de directeur technique, donc ça pourrait expliquer aussi, forcément, que peut-être qu'il avait une certaine rancœur et que, enfin, comme il était libéré de ses fonctions, il a pu parler librement. Après, je suis d'accord avec Nassim sur le fait que 8 ans après, pour une affaire comme ça, c'est un petit peu bizarre. Mais pour en revenir au match, enfin, les arguments avancés par l'ancien sélectionneur de l'Égypte, c'était le score fleuve entre l'Algérie et l'Égypte. Et du coup, ça, c'était vraiment un argument dans le sens où il a maintenu que comment l'Égypte aurait pu truquer le match en gagnant par autant de buts d'écart. Enfin, ça aurait été trop gros à maquiller. Donc après, c'est un argument qui peut se prendre dans le sens que vous voulez, mais voilà, je pense que ça résulte aussi de la tourmente qui a lieu dans le football africain et surtout algérien au niveau de la corruption en général. Donc il y aurait quelque chose à redire là-dessus. Ouais.
Valérie, tu voulais réagir là-dessus justement.
Il a parlé maintenant parce qu'il était déjà donc sélectionneur. Ensuite, il était dans la direction technique algérienne. Donc il avait un devoir de réserve, je pense, qui faisait qu'il pouvait pas parler, ou si il parlait, il devait démissionner avant. Là, comme il s'est fait virer sans ménagement, je pense que sa parole s'est libérée, peut-être un peu de rancœur aussi, et je pense qu'il a tout balancé. Après, le problème, c'est pourquoi, il dit ça, quel intérêt il a à le dire?
Il doit en avoir, mais
on ne sait pas.
Quelque chose de
ensuite,
il essaye pas de faire passer ça pour quelque chose d'honnête.
Ensuite, on dit quelque chose sans apporter de preuves ou quelque chose. On peut pas dire des choses. Oui, le match a été truqué sans preuves. C'est pas normal.
Est-ce que justement, on en fait pas trop sur ces déclarations? On prend vraisemblablement dans beaucoup de médias, on prend pour argent comptant ce qu'il nous dit. Il y a pas de preuves. Mais
t'es obligé d'en faire trop parce que ça reste le sélectionneur de ce match-là. Ça aurait été un journaliste ou quelqu'un d'autre, encore une fois. Oui, là, tu aurais pu en dire, oui, voilà, on surfe sur le buzz. Mais là, ça reste le sélectionneur de ce match-là qui te dit, oui, ce match était truqué. Et encore une fois, voilà, je reviens sur ce que tu disais. Sa parole n'a plus aucune valeur 8 ans après, sans aucune preuve.
Mais c'est la raison pour laquelle je te dis qu'on n'en fait pas trop sur sa parole, puisqu'il n'apporte pas de preuves.
Après, Claude, quoi, moi, j'ai vu l'interview, alors en français, bien sûr, parce que je ne comprenais pas tout.
Évidemment.
Bien sûr, mais c'est vrai que quand tu le vois s'exprimer, en tout cas, il a l'air, je ne dis pas que ça s'est produit, que c'est réel, il a l'air quand même sûr de ce qu'il dit.
Oui, serein.
Ouais. Il a l'air quand même serein, je veux dire.
Dans ce cas-là, si on est serein,
on n'est pas en train de nier que ça se soit passé.
Comment?
Mais, on n'est pas en train de nier la véracité du fait. Juste pourquoi le dire maintenant? Quel intérêt il y trouve?
Des pressions.
Possible.
Des pressions.
Est-ce qu'il a envie de faire tomber quelqu'un?
Mais après, tu te tèches.
Je suis d'accord sur ce que dit Claude. La pression des problèmes, c'est que là, on est en Algérie, on est en Afrique. La pression, que tu le dises 2 jours après le match ou 15 ans après, elle est la même.
Mais parce qu'il avait des intérêts avant. J'essaye pas d'expliquer fait qu'ils le disent, mais juste qu'il avait des intérêts, étant donné qu'il vient de quitter son poste et que du coup.
Même pas quitté, viré.
Mais les conséquences.
Viré.
mais les conséquences peuvent être les mêmes, hein, qu'il soit viré ou pas. Hein.
Lui, il a dit, dans, si je me souviens bien de l'interview, il a dit, moi, je le fais pour mon pays et je ne veux pas qu'on associe mon nom avec cette histoire le jour où ça sera probablement découvert, selon son avis, évidemment. Mais voilà, il voulait se dissocier.
Mais dire tout de suite,
je n'ai rien à voir avec ce match-là.
Ça, déjà, c'est des conneries. Pourquoi? Parce que s'il aurait vraiment voulu aider son pays, il l'aurait dit le jour d'après. Ou même avant. Parce qu'il avait l'air de le savoir avant que ça se produise.
Apparemment, on lui aurait proposé d'arranger le match.
À partir de ce moment-là,
il a refusé.
Il a dit, il aurait dû le rendre public en disant, voilà, tel ou tel m'a proposé de
le faire. Non, mais il pouvait pas le faire.
Non, mais les intérêts de cette déclaration, ils sont personnels. Ils sont pas nationaux. Ils sont juste personnels.
Ça n'engage que lui, en fait.
Exactement.
Ça n'engage que lui. Et à mon avis, tout ce qu'il veut défendre, c'est lui.
Malheureusement, les histoires de corruption sortent pas le lendemain comme ça. Enfin, c'est.
Oui, c'est sûr.
S'il y avait eu corruption, pour l'instant, voilà, nous, ce qu'on a, pour l'instant, c'est des dires d'anciens joueurs qui ont l'air, évidemment, totalement honnêtes. L'autre jour, Hassan Yedda nous dit, franchement, on n'a pas trafiqué le match, on a joué notre match de manière normale. Il semble que, selon lui, en face, ils ont joué leur match de manière normale. Alors peut-être que ça viendrait du coup de l'arbitrage. Est-ce que c'est possible qu'un arbitre
ait
reçu des indications?
Comme chez Hatta tout à l'heure. J'ai rien contre Yebda ou contre les autres joueurs de l'équipe d'Algérie, mais tu peux pas demander à un joueur qui fait partie de ce match-là qui est de te dire oui j'ai participé à ça.
D'anciens joueurs dans des affaires françaises du début des années 90 à Marseille pour pas le citer, les anciens joueurs qui étaient concernés ont parlé.
C'est extrêmement rare. T'as cité le cas de Marseille, c'est extrêmement rare. On les compte sur les doigts de la main les personnes qui ont témoigné contre.
Les principaux protagonistes.
Et en plus, ils ont parlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait justice qui intervenait.
Exactement.
Il y avait la justice qui intervenait.
Ce qui se passe, Alex, c'est que quand il parle, il s'exile, les gars.
Exactement.
Là, tu parlais de.
Tu perds toute crédibilité après.
L'affaire OFBA, c'est Jacques Glasman qui est parti ensuite s'exiler, je crois, à La Réunion.
Oui, c'est ça.
Et Jean-Jacques Hedley qui, malheureusement, après, derrière, a eu même sa vie totalement brisée.
Et même, il y avait la justice qui était dedans.
Ce sera la dernière réaction sur le sujet, vas-y.
Là, en tout cas, ce qui est quand même incroyable, c'est que il balance ça comme ça, sans aucune preuve. Il met le discrédit sur son pays, sur la fédération de foot algérienne et sur ses joueurs
africain, et même sur le football africain.
Et sur le football africain
elle-même, la CAN,
et même sur la CAF. Donc, quand on balance des bombes comme ça, vous qui êtes journaliste, vous savez que on a des sources, on a un dossier solide. Donc quand on balance des choses comme ça, il faut être sûr d'avoir des preuves parce que ça peut nous retomber dessus et très salement même.
Eh bien moi je suis sûr qu'on va passer à l'AS Monaco maintenant, les amis, avec Henri Premier qui est Florian, t'es aux manettes, hein, rassure-moi.
Oui, je suis là.
Allez, c'est parti pour le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Florian, c'est notre réalisateur, évidemment, chers auditeurs, chères auditrices. Et je le rappelle, il me l'a glissé d'ailleurs le numéro de téléphone tout à l'heure, parce que je l'avais oublié, 01 53 48 30 00. Si vous voulez nous appeler, on a quelques minutes, c'est pas faux. on a quelques minutes pour recevoir un appel et en parler, et en tout cas parler de ce dont nous avons évoqué jusqu'à présent, Federer, les entraîneurs, le Stade français, l'Égypte et l'Algérie. Et maintenant, en tout cas, on parle de l'AS Monaco, les amis. L'AS Monaco est-il en danger? Claude Tollet, tu as interviewé récemment un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, un certain Marius Trésor. Lui a connu la descente avec l'Olympique de Marseille en 1980, la saison 79-80. Personne, à l'époque, ne voyait l'OM descendre, et pourtant c'est arrivé, et il y avait des grands joueurs dans l'équipe. Monaco, il y a des bons joueurs, il y a un entraîneur aujourd'hui, bon, même qui débute, mais qui a une science du football. Est-ce que, voilà, Monaco peut descendre?
C'est ça le danger de ces clubs qui sont pas programmés en fait pour connaître la relégation. On a eu plus récemment ce même club, l'AS Monaco, même si depuis quelques saisons ça devenait compliqué. Monaco a connu la descente au même titre que le FC Nantes, je crois que c'était la même année. Le Racing Club de Lens surtout, qui avait fini cinquième la saison précédente. Et le danger de ces clubs-là, c'est que lorsque tu débutes ton exercice, ils sont pas préparés en fait économiquement, sportivement à la descente. J'ai regardé la rencontre entre Monaco et Dijon samedi dernier. Dijon qui était en difficulté, qui ne s'est plus imposé depuis le mois d'août. tu vois une équipe clairement malade. Et
c'est un match indigent.
Tu vois une équipe quelque part. Exactement, ouais. Exactement. Mais tu vois une équipe malade, une équipe qui n'est pas préparée au combat à ça. Mmh. Et j'ai envie de te dire que si ça perdure, parce que ça va être compliqué. Là, tu récupères un effectif qui psychologiquement est atteint. Enfin, t'as un groupe talentueux mais très jeune. T'as des cadres qui sont pas au niveau.
Les blessures, faut qu'il fasse attention.
Est-ce qu'il fallait Valérie recruter un entraîneur qui débute, tout en Thierry Henry qu'il est, mettre un jeune entraîneur pour attaquer une saison difficile comme ça pour se sauver de la relégation?
Moi j'espère que Thierry Henry va réussir, parce que déjà qu'il revienne dans le championnat français, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous français, mais je pense pas que c'était vraiment la meilleure chose à faire. Quand on arrive à un classement comme ça avec très peu de points, il faut mettre un entraîneur qui va secouer un peu les joueurs, qui va pouvoir mettre quelque chose de solide, en commençant par la défense, parce que on sait très bien que quand il y a une opération comme ça, sauvetage, il faut que la défense tienne le coup avant l'attaque. En plus là, comme disait Claude, c'est un groupe très jeune, décimé par les blessures, plus un entraîneur jeune qui n'a jamais entraîné. Je pense pas que ce soit un cadeau pour Thierry Henry. Et même en amont, je pense que l'ASM a fait une erreur avec Jardim. Ils auraient dû prévoir la fin de cycle et
fin de saison dernière.
Exactement. Et laisser Jardim partir ou renouveler quelque chose. Là, c'est fait dans la précipitation. Un peu n'importe comment, ça va être très compliqué pour Monaco. J'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir, mais ça va être dur.
Nassim, Reims-Monaco demain, déplacement compliqué, tout devient compliqué maintenant pour Monaco. Première victoire pour Thierry Henry?
Pourquoi pas, mais ça reste un match à l'extérieur. Et les matchs à l'extérieur, quand tu te bats pour le maintien, c'est jamais facile. J'ai envie de dire que ça leur pendait au nez pour les monégasques. C'est que ils ont un effectif instable depuis 3, 4, 5 saisons. Ils ont réussi à surfer grâce à d'excellentes générations, mais là il se trouve que la génération 2018-2019 pour l'ASM elle ne soit pas au niveau, et c'est ce qui arrive quand tu vends autant de joueurs saison après saison. Tu prends le risque qu'une saison la récolte ne soit pas aussi bonne, et là en l'occurrence c'est le cas, et ça devient très très compliqué. Ils sont en train de se battre pour le maintien, et comme ça a été dit tout récemment, ils sont pas programmés pour ce combat. Le combat contre le maintien, c'est quelque chose qui est compliqué et qui est pas simple à amorcer. Vous pouvez même mettre le PSG.
Comme le disait Claude, effectivement.
Ça peut être le PSG avec ses stars. Si, du jour au lendemain, ils se retrouvent à se battre pour le maintien, ça va être un autre PSG qu'on va voir. Parce que le maintien, ça vous transforme une équipe. Et c'est une sorte de spirale négative, et les équipes ont beaucoup de mal à en sortir. On le voit en ce moment avec Monaco. C'est pour ça que je suis pas sûr et certain que Monaco puisse battre Reims demain.
Yann, est-ce qu'il y a des sales tips avec un pronostic, peut-être, du coup, pour le match de demain, par exemple?
Pourquoi pas. Du coup, je verrais une victoire de Reims 1-0. Donc, pour l'instant, pas de première victoire pour Thierry Henry.
Tu es pessimiste, donc?
Un petit peu. Enfin, réaliste, on va dire, étant donné que Henry vient d'arriver, qu'Henry doit mettre en place son équipe. Et je pense que la clé pour la saison de Monaco, ce sera le recrutement de janvier. Si Henry arrive à avoir des joueurs qui correspondent à sa philosophie de jeu, juste deux ou trois, ça peut être déjà pas mal. Je pense que Monaco, en engageant Henry, on fait des promesses quant aux recrues et à de bonnes recrues. Donc je pense que Monaco se sortira la tête de l'eau, finira même, allez, je me mouille, dans la première partie de tableau.
Oh.
quel risque. Et du coup, voilà, je vois par contre Monaco ne pas forcément réussir à s'imposer à Reims demain. Une équipe de Reims qui a fait un très bon match à Rennes en gagnant 2-0.
Claude Tollet sera la dernière action du jour.
Rapidement, la clé, ça va être quand tu joues le maintien, parce qu'il faut qu'ils se mettent vraiment dans la tête que là, pour le moment, faut pas espérer première partie de tableau. On verra ça peut-être en seconde partie de championnat. Faut être des guerriers. Là, faut être guerrier. Tu joues Reims, tu joues les équipes de bas de classement, tu joues Caen.
Après,
ces clubs-là sont programmés. Ces clubs-là engagent des joueurs programmés pour faire l'ascenseur. C'est ça qui est difficile, c'est que Monaco n'est pas programmé à ça. Tu parlais du recrutement, là je suis d'accord avec toi. La philosophie de jeu Henry, ok, va falloir chercher des guerriers.
Mais après, je pense que c'est pas forcément le but.
Rapidement, messieurs, très rapidement, s'il vous plaît.
Le but d'Henri, je suis d'accord sur le moyen terme, je suis d'accord avec toi. Mais là, sur le court terme, là c'est dans la tête que ça se joue. Hein.
Même la gestion du club. Hein.
Messieurs,
faut des gars prêts pour exactement.
Messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs. Claude Tollé donc était avec nous aujourd'hui, entraîneur, prof d'éco-gestion, Valérie Capla, Ead Raski, Nassim Bourras. Messieurs, Time Sport, c'est terminé. On revient la semaine prochaine. Ce sera Bilal Nedman aux commandes, évidemment. Allez, bonsoir à tous. Salut, salut.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.